La Sexploratrice, présentée par Planet X. Devenez un aventurier du plaisir. Explorez vos fantasmes. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. MonPlanetX.com. I know
how it sounds. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
La Sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et merci encore une fois d'être à l'écoute de La Sexploratrice, en compagnie de Mel Trudel et Max Lacasse.
Salut, Mel.
Bonsoir, Max.
Comment ça va?
Ça va très bien. Belle journée?
Oui, absolument. Il a fait beau aujourd'hui.
Il a fait très beau aujourd'hui.
Y a-tu fait beau? Je me pose la question. J'ai passé la journée en dedans. J'ai pas
Oui,
journée
il a fait
passée.
Beau. Et je me suis permis une petite balade dans le Vieux-Québec en compagnie de ma copine Amélie. Oh. Donc, on a joué les touristes. On a tellement ri. Sérieusement, là, on a un bijou à portée de main. Et je vois beaucoup de gens qui ne pensent pas à faire ça comme activité avec leur famille, ton amoureuse, une première date. Le Vieux-Québec, là, le petit Champlain, le Vieux-Québec, tout près là, de Dalhousie, tout ça, c'est tellement le fun. Prendre le bateau jusque de l'autre côté de la rive, arrêter au Quai Paquette, c'est vraiment le fun. Puis là, il y a comme une espèce de vélo, là, en tout cas, qu'on peut embarquer, on tourne. En tout cas, c'est super drôle. On a ri, on a ri, on a ri. Et on a même croisé des auditeurs.
T'es rendu une grande vedette.
Nous sommes des vedettes, Max. On est écoutés, on est écoutés. Donc, j'aimerais d'ailleurs saluer Stéphane de Construction, Guy Pépin, qui nous faisait dire bonjour, lui et son collègue, qui sont de fidèles auditeurs. Donc, je trouvais ça vraiment très, très drôle de me faire arrêter dans la rue. « Hey, c'est la petite noire de la radio, ça!
» Oh, hey, ça, c'est la petite noire. C'est une phrase un peu louche, mais salut Guy! Salut Steph! Salut tout le monde!
Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être à l'écoute. Dites-nous donc ce soir, vous nous écoutez d'où? Écrivez-nous ça au 88-670-9098 sur le live. Toujours présent, Maxime qui est présent. On a Simon de Berthierville qui nous écrit également. Bonsoir! On a Marc Troqueur de son camion. C'est très drôle. Isabelle de Saint-Anselme, bonsoir. De Neuchâtel, on n'a pas le prénom. Merci, merci, merci d'être à l'écoute.
On n'a pas le prénom, mais on a son numéro. C'est le 418-4.
Ah, c'est très drôle. Max,
oui.
On a une invitée ce soir que j'avais très hâte de te présenter.
Moi aussi, vraiment.
Donc, je continue avec les salutations. Là, attends un petit peu. Oh, Dominique Fauché. Ça finit bien la journée. Stephen d'Edmonton en Alberta. Wow!
Pan canadien, mesdames, messieurs.
Yes, sir.
Salut, Stephen.
Salut, Stephen. Hey, merci. On va continuer de vous lire au retour de la pause. Donc, continuez de nous écrire. Notre invité de ce soir, en fait, a vécu quelque chose d'assez intense. J'avais envie qu'on l'invite finalement pour qu'il nous parle du avant, du pendant et du après. Et on parle ici de Dominique Thibault qui a subi une phalloplastie, c'est-à-dire qu'il s'est fait construire un pénis. Donc, il est très, très actif sur TikTok. C'est un homme trans qui s'assume et qui, à sa façon, partage son expérience et permet ici à des gens qui vivent la dysphorie de genre ou qui se questionnent sur leur identité, leur orientation, leur envie, bref... Il éclaire vraiment beaucoup de gens et il le fait de façon très, très éducative. C'est vraiment très, très intéressant. Dominique Thibault, je crois que tu as vu l'article que
j'ai
vu également.
Oui, j'ai vu l'article. Je pense que ça va être intéressant de parler à Dominique, surtout du point de vue où, dernièrement, dans l'actualité, on en parle beaucoup. La dysphorie de genre, des enfants qui veulent potentiellement changer de genre à un jeune âge et d'avoir le point de vue de quelqu'un. Parce que nous, on est des gérants d'estrade, hein? Quand on parle de ça, on l'a pas vécu, puis souvent,
non.
On connaît peu ou presque pas de gens qui l'ont vécu dans notre entourage.
Beaucoup de gens ont tendance à juger.
Exact.
C'est un sujet qui, oui, peut vous faire réagir. Certaines personnes trouvent ça inconcevable, d'autres sont très ouvertes. Je pense que de plus en plus, les gens sont ouverts là-dessus. D'ailleurs, on aura la chance de recevoir également Gabrielle Marion, qui, elle, est une femme trans. Donc, on aura le pouls des deux côtés. Donc, on aura ce soir une femme devenu un homme trans, donc qui a vécu la phalloplastie, et l'inverse, donc un homme qui a vécu la vaginoplastie.
On va pouvoir avoir l'envers de la médaille.
Et voilà.
C'est ce qui est intéressant, de parler à des gens qui le vivent, qui sont en relation directe avec ce que ça fait de changer de sexe.
Exact.
Alors là, je pense que pour le bénéfice de nos auditeurs, ce soir, on va vivre quelque chose, fait que j'ai très hâte de parler.
Oui, absolument. Donc, on va débuter avec son histoire, et après la pause, j'aimerais qu'on y aille avec la technique. Comment ça fonctionne? J'ai plein de questions pour Dominique. Donc, Dominique est avec nous par téléphone. Bonsoir!
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien, merci.
Yes! Donc, Dominique, tu nous appelles, tu es en direct de Gatineau?
Yes.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, j'avais tellement hâte de te parler.
Ça fait plaisir, moi aussi.
Donc, pour les gens qui nous écoutent, en fait, là, tu as quel âge, Dominique?
Là, maintenant, j'ai 30 ans.
Tu as 30 ans et tu as vécu une phalloplastie à l'âge de 25 ans.
En 2016.
En 2016, excuse-moi. Ouais. Donc, tu avais quel âge exactement?
Honnêtement, je pense que c'est 26. Fait que t'étais quand même
proche.
Je suis pas super bon avec les années puis les calculs, là, mais c'est alentour de ça.
J'ai fait mes devoirs, pas pire. OK. Peux-tu nous raconter un peu comment t'as vécu ton enfance, ton adolescence? Comment t'en es venu à te sentir homme alors que tu étais initialement une femme? T'es née dans le corps d'une petite fille et c'est ça. Comment t'en es venu à dire, hey, là, c'est assez, je suis prêt à passer à l'acte?
Ben dans le fond, premièrement, j'ai entendu ton ouverture, puis je voulais juste te rectifier ça. Tu sais, t'as dit une femme qui a subi une phalloplastie, puis un homme qui a subi une vaginoplastie, mais dans le fond, le bon terme, là, si on veut s'adresser aux personnes trans, je trouve que c'est bon de le dire, c'est vraiment que moi, j'aime ça dire je suis un homme né dans un corps de femme, parce que dans le fond, moi, je me suis jamais senti comme une femme, dans le fond. J'ai toujours su que j'étais un gars, même à l'âge de 4 ans, en fait. C'est là que ça a commencé. Puis pour la plupart des gens, même s'ils l'expriment tard dans leur vie, ils se sont toujours sentis pas comme le sexe biologique, dans le fond, pas comme leur sexe dans lequel ils sont nés. Donc, je pense que c'est important, là, vraiment, de dire à un homme qui est né dans un corps de femme puis une femme qui est née dans un corps d'homme.
Tellement. Hey, je comprends totalement. Et crois-moi, je vais utiliser ce terme à compter de maintenant.
Super, super. Puis pour répondre à ta question, dans le fond, justement, comme je disais, je me suis toujours senti comme un gars. Le plus loin que je me souvienne, c'est vraiment à mes 4 ans, là, dans les alentours de ça. C'est certain que quand on est jeune, on se souvient pas de tout. Mais dans le fond, moi, j'ai un cousin super proche de moi, puis j'étais toujours en train de jouer avec lui. Je voulais rien savoir de jouer avec mes cousines. Je les aime, mes cousines, là, surtout aujourd'hui. Mais dans le temps, là, j'étais vraiment plus proche de mon cousin. Jouer avec lui, ça a des jeux de gars, là, entre parenthèses, là, des jeux dits de gars.
Oh, ouais, les G.I. Joe, les voitures et tout ça.
Ouais, les petites voitures, des choses comme ça. Tu sais, fait que je me tenais tout le temps avec lui. J'avais plus tendance à me faire des amis de gars. Puis pour moi, j'étais comme eux, en fait. Je voyais pas la différence. C'est vraiment vers l'adolescence, là, quand la puberté est arrivée, que là, j'ai réalisé que mon corps, il changeait, mais pas de la même façon qu'eux. Fait que c'est là que j'ai réalisé au début de l'adolescence là que il y avait quelque chose qui clochait vraiment avec comment je me sentais puis comment mon corps il se développait dans le fond.
OK. Et là à l'adolescence, tu as commencé à te questionner et est-ce que tu en as parlé à ce moment-là à ta famille ou est-ce qu'au niveau en fait de ton développement, la sexualité et tout, est-ce que tu as quand même eu des relations sexuelles avec des hommes à ce moment-là?
Non, dans le fond, moi, j'ai commencé par me dire, en fait, que j'aimais les filles. Je me suis jamais vraiment considérée lesbienne, là, parce que c'est le terme qui est associé de femme à femme, mais dans le fond, c'était ça le terme dans ce temps-là, parce que j'avais encore un corps de fille.
Mais t'étais un homme en toi.
Oui, c'est ça, exactement, mais le corps, c'est encore celui d'une fille, puis donc j'ai réalisé quand même que j'aimais les femmes, mais il faut pas associer identité de genre avec orientation sexuelle, parce qu'il y a des hommes trans qui sont gays, puis il y a des femmes trans qui sont lesbiennes aussi, donc les deux ne vont pas ensemble. Souvent, les gens ils ont tendance à penser que automatiquement, quand que tu veux changer de sexe, c'est que tu aimais les femmes, puis... tu sais, c'est vraiment pas ça, en fait, là. C'est important de dissocier les deux.
Totalement.
Quand tu étais jeune, Dominique, et tu te sentais comme un homme alors que tu étais dans le corps d'une jeune fille, comment ça se traduisait au quotidien? On a l'impression générale de ce que tu pouvais ressentir, mais est-ce que, par exemple, lorsque tu te regardais dans le miroir, tu avais plutôt l'impression de voir un homme quand tu te regardais? Comment ça se traduisait?
J'ai jamais vraiment eu de réflexion dans le miroir. Quand j'étais jeune, j'aimais pas ça me regarder dans le miroir vraiment. Peut-être que ça vient de là, je me suis jamais vraiment posé la question, mais tu sais, j'étais vraiment, vraiment jeune. Ma mère, elle essayait de me mettre des robes ou des jupes, des choses comme ça, là, puis je crisais, là, je voulais rien savoir. Je me souviens même que quand on allait à des événements comme des mariages, des choses comme ça, puis il fallait que je m'habille propre, ben finalement, je finissais par m'astiner pour avoir un genre de tuxedo, là, une petite habille là, propre d'enfant. Là. Je voulais rien savoir du linge de fille. Puis sinon, je me souviens, en deuxième année primaire, là, j'étais arrivé dans ma classe, puis j'avais les cheveux courts, puis la maîtresse a pensé que j'étais un gars. C'était la première journée de classe, là, mais pour vrai, moi, ça m'arrangeait. Puis c'est quand il faisait les présences, là, quand il appelait les noms, ça m'a tout le temps créé un gros malaise là, quand il disait mon nom, parce que c'est comme si j'avais l'impression qu'à ce moment-là, les gens réalisaient là, que j'étais une fille. Là.
Parce qu'à à cette époque-là, en fait, tu avais un prénom très féminin et c'était pas Dominique, c'est bien ça?
Exactement.
On va garder le... l'anonymat, on ne mentionnera pas quel nom tu avais, on en a discuté hors d'onde. Et comment ouais. s'est fait l'annonce à ta famille? À partir de quand est-ce que tu as décidé d'en parler avec ta famille, comme quoi tu étais prêt peut-être à aller vers les hormones ou vers la transition finalement?
Dans le fond, ça a commencé, c'est comme je disais tantôt, j'ai commencé par dire que j'aimais les filles, ça a quand même vraiment bien passé. Dans ce temps-là, je réalisais pas encore que ça existait, le changement de sexe, fait que je savais pas vraiment que c'était ça mon problème. Mais c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai vu un gars à télé qui avait fait la transition, en fait, qui faisait du même sens que moi, donc il avait eu la phalloplastie. Puis quand j'ai entendu son témoignage, je me suis vraiment reconnu à travers lui, fait que j'ai vraiment su que c'était ça moi aussi. Mais j'avais quand même 15 ans, puis je me souviens, j'avais dit à ma mère, ah, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je changeais de sexe, tu sais, pour tester le pouls, puis elle m'avait dit, ah, je sais pas, mais de toute façon, ça arrivera pas. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, ça m'a comme un peu arrêté, mais en même temps, mes parents, ils ont toujours vraiment été ouverts. Puis aussi, dans ce temps-là, j'avais une copine, ça faisait quand même un bon bout qu'on était ensemble, puis elle m'avait, c'était la seule personne à qui j'en avais parlé plus sérieusement. Puis elle m'avait dit, moi j'aime les filles, puis si tu fais ça, je suis vraiment pas sûr que je vais être capable. Puis là, moi, ça m'avait vraiment fait quelque chose parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Fait que je voulais pas, tu sais, qu'on se laisse, j'avais peur de la perdre. Fait que j'ai juste dit, ah ben non, non, c'est sûrement pas ça. Tu sais, je vais laisser le temps passer, ça va aller. Puis finalement, j'ai laissé les années passer. Là, il s'est passé de 15 à 18 ans. Puis à 18 ans, j'ai vraiment réalisé que plus ça allait, plus j'avais un mal de vivre, plus je sentais que les gens que j'allais travailler, les personnes qui venaient à mon travail, là, ils me parlaient au féminin, puis j'avais l'impression que jamais les gens me voyaient comme que moi, je me voyais réellement dedans de moi.
Si ça avait pas été...
vraiment que... ouais?
Si, oui, pardonne-moi, Dominique. Si ça avait pas été de l'affluence que tu as eue et de l'influence que tu as eue de la fois où... t'as vu quelqu'un qui avait eu une phalloplastie, parce que je vais revenir là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu penses qu'à long terme, ça serait venu par toi-même, ce désir-là de devenir un homme, n'eût été de ce que tu avais vu?
Honnêtement, je l'ai toujours su, mais c'est juste que je savais pas que ça se faisait. Mais tôt ou tard, j'aurais su que ça se faisait, fait que je l'aurais fait. Là. C'est juste que pour faire quelque chose, il faut savoir que ça existe dans un sens.
Parce qu'autrement, toi, dans ton genre, dans ton identité de genre, en fait, dans ton style, tout ça, t'étais un homme, tu t'habillais en homme, donc il restait que la partie génitale, finalement, et le poil, tu sais, je veux dire, la voix et tout ça, là, c'était à transformer, mais autrement, t'étais un homme, là, t'étais déjà un homme dans ta tête à toi.
Oui, oui, exactement, là, c'est exactement ça. Bien, c'est pas tous les gens trans qui vont aller jusqu'à faire les opérations. Il y en a qui se sentent à l'aise une fois qu'ils ont eu juste la mastectomie, en fait, qui est quand ils enlèvent les seins. Il y en a qui vont juste prendre des hormones, des choses comme ça. Ça dépend vraiment de chaque. Donc, le désir de faire les opérations n'est pas le même pour chaque personne trans. Mais moi, au fond de moi, j'avais le désir, là, dans ce temps-là, au moins, de ne plus avoir de seins parce que c'était vraiment une partie de moi là, que je détestais. Mais je réfléchissais pas encore à ce moment-là à la phalloplastie. Là. En fait, tout ce que je voulais, c'est quand j'ai su que ça se faisait, tout ce que je voulais, c'est que je puisse sortir en public, aller travailler, aller voir des amis, puis pas avoir l'impression que si je rencontre des étrangers, ils me parlent au féminin, puis que dans le fond, je sens que ça me correspond pas du tout.
Est-ce que tu te sentais un peu comme un imposteur?
Ouais. Surtout quand les gens me parlaient au féminin, je sentais que c'est comme si à chaque fois, il y a quelque chose qui clochait, comme si... Quand les gens disaient ça ou qu'ils disaient mon nom d'avant, en fait, ça me faisait comme un coup de poignard là, dans le cœur, là, pour vrai. Là. C'est pour ça que j'aime pas encore dire mon nom aujourd'hui, mon nom d'avant, comme j'ai l'impression que ça me rattache à vraiment un mal de vivre que j'avais dans ce temps-là. Quelqu'un qui a jamais été moi, en fait.
OK, je comprends. Et t'avais un espèce de bandage, j'imagine, pour tenter de cacher, de camoufler tes seins?
Ça, c'est quand j'ai commencé la testostérone, que j'ai commencé à mettre des chest benders. Ça s'appelle, je sais pas le terme en français, mais pour vrai, c'est l'enfer, ces choses-là. Là, c'est vraiment, vraiment, c'est serré, 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 ouais. Ça fait mal. Quand il fait chaud, là, t'as comme doublement chaud, là, c'est vraiment pas conseillé, mais pas mal toutes les gens trans là, passent par là. Là.
Okay. Comment ça se passe le moment où tu annonces à ta famille, à ta mère, que tu veux officiellement et sérieusement changer de sexe?
Ben dans le fond, pour vrai, moi, dans la vie, je suis quelqu'un de quand même direct. Là. Comme mon père m'a toujours dit, quand t'as une idée dans la tête, c'est dur de t'arrêter. Là. Fait que je me suis juste dit, go, je vais y aller, je vais le dire à ma mère, parce que moi et ma mère, on était quand même vraiment proches. Puis on faisait une ride de char, puis j'ai juste dit... ouais, mais je vais changer de sexe, surprise. Mm-hmm. Puis là, finalement, elle dit, ok, ben, tu veux que je le dise à ton père, pas à ta sœur. Puis là, j'ai dit, ouais, j'aimerais mieux ça. Fait que c'est elle qui s'est chargée de faire le reste, mais tout le monde l'a super bien accepté.
Mais là, à partir du moment où t'en parles à ta mère, est-ce que t'as déjà des démarches d'entreprise de ton côté ou c'est vraiment là ton idée est faite et tu vas débuter les démarches?
Ben dans le fond, depuis que je suis vraiment jeune, depuis que j'ai 13 ans, j'allais à un endroit pour les gens LGBT qui s'appelle Jeunesse IDEM. C'est à Gatineau. C'est un super bel organisme qui vient en aide aux jeunes LGBT.
Peux-tu renommer l'organisme, s'il te plaît?
Oui, c'est Jeunesse IDEM.
Oh, wow, OK.
Ouais, super, super bel organisme. Ils sont très, très impliqués là pour essayer d'aller faire de la prévention dans les écoles, justement. Essayer de faire... On avait aussi des camps pour les gens de Jeunesse IDEM, là, des camps pour les jeunes, juste pour la confiance en soi, apprendre à s'accepter, même s'il y a des jugements, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment une belle organisme. Puis à travers eux, justement, je suis allé chercher des ressources. Dans le temps, c'était plus gay, lesbienne. Les gens trans, il n'y en avait pas vraiment à Jeunesse IDEM. J'ai été un des premiers, en fait. Puis... Et justement, comme quand ça a commencé, ça, qu'on commençait à en parler à IDEM, là, c'est pas mal dans le temps là, que moi, j'ai décidé de le faire. Fait qu'ils sont allés chercher les ressources là, pour pouvoir aider les jeunes trans à entreprendre les démarches, dans le fond. Fait que c'est là que j'avais pris les informations avant même de l'annoncer à ma mère. Mais j'avais rien débuté encore.
OK.
T'avais quel âge à ce moment-là, Dominique?
18 ans.
Est-ce que tu penses que c'est bien pour les enfants qui souhaitent changer de genre, que ce soit fait un peu plus jeune?
Ben, pour vrai, moi, je connais personne. Je sais pas ce qui se passe dans les médias en ce moment, là. On peut en parler. Je comprends pas pourquoi les gens pensent que les enfants en bas de 18 ans peuvent avoir les opérations, parce que pour vrai, je connais personne qui a pu le faire avant 18 ans. Même pas prendre des hormones. La seule chose que les jeunes peuvent faire avant 18 ans, c'est prendre des bloqueurs de... Ouais, des bloqueurs qui font en sorte qu'ils ont pas leur puberté, en fait, qui retardent la puberté. Donc, ça fait en sorte que s'ils ont des doutes qui sont trans, qui sont vraiment dans le mauvais corps, ben, ils peuvent retarder la puberté. Comme ça, s'ils décident vraiment de transitionner, ben, au moins, ils auront pas, ils n'auront pas des seins. Mettons, dans mon cas, à moi, là, j'aurais eu moins de seins. J'aurais eu peut-être plus un physique moins féminin, même si j'avais pas vraiment un physique très féminin. Là. J'étais quand même vraiment chanceux à ce niveau-là. Mais tu sais, il y en a que les hanches sont vraiment larges, des choses comme ça, des choses typiquement associées aux femmes. Donc, c'est certain que pour eux, s'ils transitionnent, là, c'est des choses qui se perdent pas vraiment. Donc, ça peut être... Ça peut être plus complexant pour eux, là, dans le fond.
Là, tu parles d'enfants, disons, de 14 à 18, mettons?
Je pense que c'est à partir de 16 ans, les bloqueurs, même. Okay. Avant ça, là, parce qu'il faut quand même que les enfants soient assez grands. On peut pas retarder une puberté, tu sais, puis que ça affecte, là, dans le fond, l'enfant qui grandit, là. Donc, je pense que c'est à partir de 16 ans, okay, les bloqueurs. Puis, si jamais ils décident finalement qu'ils veulent pas transitionner, ben à partir de là, ils arrêtent les bloqueurs puis ils reprennent une croissance normale, là, okay, dans le fond, là.
Parce que j'imagine que ça prend aussi un suivi psychologique, là. T'sais, on peut pas demander des bloqueurs comme ça sans suivi, sans approbation. Et... Parce que tout ça, encore une fois, doit être subventionné par la RAMQ. En fait, ça doit être payé par la RAMQ. J'imagine.
Les bloqueurs, honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que les hormones sont pas payées. Ben, c'est une petite partie là, qui est payée par la RAMQ, mais c'est pas au complet. Je pense que ça me coûte 35$ aux deux mois.
OK. Ouais. OK. Et là, pour...
Oui.
Excuse-moi. Donc, et là, bon, t'en as parlé à tes parents, c'est quand même bien accueilli dans la famille. Ta copine, t'es toujours avec à ce moment-là.
Oui.
Et tu décides d'entreprendre les traitements de testostérone pour débuter.
Oui, c'est ça, exactement. Donc là, j'ai commencé à prendre la testo. Elle m'avait dit, ben, tu sais, on va voir, là, j'aime les femmes, mais on va voir, tu sais, je t'aime vraiment. Fait que, en tout cas, on a pris une chance. De toute façon, j'y avais dit, c'est soit je le fais ou je meurs, là, parce que j'avais plus le goût de vivre, là. Rendu à ce moment-là, là, c'est une des choses qui m'a aidé à me décider, en fait. C'était soit ça ou rien, là. Donc, elle m'a dit, OK, c'est correct, on va voir. Puis finalement, quand j'ai commencé à prendre les hormones, ben là, la voix a commencé à changer. Il y a beaucoup aussi de fluctuations de comportement au début parce que je veux pas, c'est comme si, moi je comparais ça à comme si ta testostérone fessait sur ton estrogène, donc les hormones mâles avec contre les hormones femelles, on va dire ça comme ça. Ça faisait comme un gros mélimélo d'émotions en dedans de moi, puis pour vrai, des fois c'était vraiment intense, donc c'est dur quand même là, pour les personnes au début. Avec qui on est en relation ou l'entourage, tu sais, c'est important d'être
compréhensif. Au niveau de l'humeur, surtout, j'imagine?
Oui, ouais. Vraiment, là, parce que c'est un gros changement. Puis en même temps, il y a plein de peurs qui viennent avec ça parce qu'on ne sait pas vraiment quel changement que ça va faire. C'est comme se pitcher dans le vide, même si on a eu un peu d'informations avant ça. Là. C'est quand même tu sais, se lancer dans quelque chose qu'on connaît pas. Donc, c'est ça. Finalement, ça a fait qu'à un moment donné, ben, elle m'a dit... Ben, ça fonctionne plus parce que tu sais j'aime pas ça finalement, je suis pas capable d'être avec un gars puis elle me laisser là, c'est sûr ça m'a fait beaucoup de peine mais
toi ouais. T'étais t'avais ton idée, t'avais ton but, c'était ça donc il y avait rien d'autre qui pouvait te faire changer d'idée.
Non, c'est ça. Non, ouais, rendu à ce moment-là là, je savais pleinement que c'est ça que je voulais, fait que j'ai laissé ça aller, j'aurais pas des fois j'ai eu de la misère en amour là après ça là à trouver des filles surtout parce que t'es comme dans l'entre-deux.
Mais oui.
Colin, j'aurais dû me prendre un verre d'eau, je pense, parce que il fait chaud pas mal où je suis. Excusez-moi. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de misère là. Une fois qu'elle m'a laissé, j'ai rencontré d'autres filles, je leur expliquais ma condition, mais c'était souvent des filles lesbiennes, mais qui étaient comme pas trop sûres, puis en tout cas, ça marchait jamais. Fait que j'ai pogné un gros down à un moment donné, puis ça, j'étais quand même dans le début de ma transition, là, puis j'ai pogné un gros down, je me suis dit, ah, crime, je vais-tu finir ma vie toute seule? Mmh. Puis dans ce temps-là, j'accordais tellement d'importance à l'amour, puis j'avais peur de finir ma vie toute seule à cause de ça, fait que je me suis dit, j'ai-tu vraiment bien fait de faire ça? Ou, tu sais, j'ai eu des doutes, puis finalement, ben, j'étais comme, ben non, comme je pense à moi, puis c'est ça, puis tu sais, je vais trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, là, en fait, là.
OK. Puis, la testostérone, à partir du moment où tu as débuté les traitements, ça a pris combien de temps avant que tu vois les premiers effets? Et ça a été quoi, les premiers effets?
Bonne question. Pour vrai, c'est loin dans le temps, mais je te dirais que dans les premiers effets, c'est surtout la voix là, qui commence à muer. On a des fois la voix qui devient vraiment plus grave, puis là, tout d'un coup, ça rentre comme un gars cis, là, un gars de naissance, dans le fond, qui mue, là, ça fait pareil.
À l'intérieur de quelques semaines, de mois?
Je dirais un mois.
OK.
Là. C'est quand
c'est
même
rapide.
Minime. Là. Ouais, ben quand même, mais ça dépend tellement. Que chaque personne est différente, là, mais je dirais environ un mois. Là, ça, moi, en tout cas, pour moi, ça a commencé à baisser un peu. Mais avant, j'avais vraiment une voix très, très aiguë. Là, donc c'est ça. Tu sais, ça baissait, mais pas comme en ce moment, mettons.
Puis à ce moment-là, t'es encore, tu possèdes encore les organes féminins, tu prends de la testostérone. Et regarde, pardonne-moi si tu veux pas aller là, je vais comprendre, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui sont dans une situation comme celle dans laquelle tu étais à l'époque, de comprendre comment ça se passait. Au niveau de ton intimité, est-ce que tu arrivais quand même à pouvoir avoir un semblant d'intimité quelconque, même si tu étais sous testostérone avec un corps féminin encore?
Pour faire l'amour, tu veux?
Exactement.
Ah, OK. Ben non, ça me dérange pas d'en parler. Ben, tu sais, comme je t'ai dit, comme dans ce moment-là de ma vie, ben, je me suis fait laisser. Donc, j'ai pas vraiment là, eu quoi que ce soit à ce niveau-là, à ce moment-là. Mais plus tard, là, il m'est arrivé de rencontrer une fille. J'en ai rencontré une couple, là, mais une fille avec qui je suis resté plus longtemps. Puis elle se considérait hétéro, mais elle était quand même là, ben, On s'est rencontrés sur Internet, en fait. Puis au début, je n'y ai pas dit pour moi, en fait. J'ai juste dit, j'avais un profil avec ma photo. Dans ce temps-là, tu sais, ma face, elle avait quand même changé. J'avais pas encore de pilosité faciale, là, mais tu sais, vu que j'étais jeune, ben j'avais juste l'air d'un plus jeune gars, mettons. Donc c'est ça, elle a vu ma photo de profil, elle m'aimait bien, on s'est parlé vraiment longtemps, puis on s'entendait super bien. Puis à un moment donné, il est venu le temps où elle voulait me rencontrer. Donc je lui ai dit, en fait, avant de la rencontrer, là, que j'étais en processus de changement de sexe, que j'avais eu aucune opération. Dans ce temps-là, je portais justement un chest bender là, pour cacher mes seins. Puis on s'est rencontrés, elle m'a dit, ben, tu sais, on va se rencontrer, on va voir, puis, tu sais, finalement, on s'est rencontrés, puis on est tombé en amour. elle m'a dit, tu sais, ça me dérange vraiment pas, puis là, ben, à un moment donné, ça l'a donné qu'on a couché ensemble, puis c'est comme si, ben, j'ai jamais senti, en fait, que ça la dérangeait, là, j'ai vraiment jamais senti.
Avais-tu plus de libido en étant sous l'effet de la testo?
Ben non, je pense que j'en ai toujours eu.
OK.
Ouais. <C'est> J'en ai toujours eu. Je vois pas vraiment la différence. Il y en a là, qui me disent que eux, oui, il y avait vraiment plus de libido, mais moi, je pense que en général, ça a tout été pas mal beaucoup. Même, je te dirais qu'en ce moment-là, mais ça, je vais y revenir plus tard, là, c'est oui. Moins... je suis plus réservé à ce niveau-là que ce que j'étais dans ce temps-là.
OK.
Puis moi, j'ai jamais eu... Dans ce temps-là, je voulais vraiment juste la mastectomie. Je voulais pas la phalloplastie nécessairement à ce moment-là. Je me disais, ben peut-être plus tard, on va voir plus tard, mais tant que les gens, eux, ce qu'ils voient, c'est un gars, ben ce qu'il y a dans mes pantalons, ben ça m'a jamais empêché justement d'avoir des relations sexuelles. Tu sais,
okay.
C'est ça. Mais ça, on peut y revenir tantôt.
Oui, on y revient. Après la pause, tu restes avec nous parce qu'on va parler du volet plus technique, finalement, de ta transition. Donc, vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice avec Dominique Thibault, un homme trans qui nous parle de sa phalloplastie.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel.
Radio X.
De retour avec la sexploratrice Mel Trudel et Max Lacasse.
Yes.
Donc, je voudrais dire un beau bonjour à Éric Mainville de Henryville, Stéphane Paquin, Gaston Fortin de Saint-Lambert. On a quelqu'un également qui nous écrit des îles Mingan de la Côte-Nord, Éric de Princeville. Et je vous remercie d'être à l'écoute. C'est vraiment un plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute un peu partout comme ça, d'un peu partout comme ça au Québec. Certains sont dans leur lit, dans leur camion, en train de faire à manger. C'est vraiment super. Merci, merci, merci.
On est worldwide!
Ouais! Donc, on poursuit l'entrevue tellement intéressante avec Dominique Thibault, un homme trans qui a accepté de nous partager l'histoire de sa transition, donc de sa phalloplastie. Et on entre dans le volet plus technique de la transition. Donc, on repart du moment où là, t'as rencontré quelqu'un, t'es en couple finalement, t'es sous l'effet de la testostérone, dans les traitements, bon, ça avance bien, tout ça. Et là, ta transition s'en vient, l'opération s'en vient. Est-ce que t'es toujours en couple à ce moment-là? Ou...
Oui, dans le fond, j'étais encore en couple là, quand j'ai eu pas ma phalloplastie, mais la mastectomie, en fait, quand ils ont enlevé les seins.
Okay.
J'étais encore avec cette fille-là à ce moment-là. Ça s'est bien passé, honnêtement, l'opération top-notch, là, j'aimais vraiment ça. Ça m'a pris quand même un an là, avant de mettre topless pour aller me baigner. Là. C'était vraiment spécial la première fois. On dirait que même si je les avais pu, j'avais encore la crainte là, que, je sais pas, c'était bizarre, c'était mental, j'avais encore la crainte que j'en avais.
OK. Puis, tu étais avec ta conjointe à ce moment-là?
Oui, pas celle que j'ai
actuellement. Pas celle que tu as actuellement.
Ouais,
parce que tu as une belle histoire à nous raconter aussi en lien avec ta copine actuelle.
Oui, c'est ça. Ben, ça, dans le fond, cette copine-là, c'est arrivé quand j'ai eu ma phalloplastie, justement. Mais en fait, on se connaissait là, depuis vraiment longtemps. Là, on était des amis. Je pense que ça faisait quelque chose dans genre 8 ans. Avant qu'on décide de sortir ensemble, je l'ai rencontrée parce que c'est la cousine de ma plus vieille amie d'enfance. Donc, elle a toujours su, en fait, là, elle m'a connue avant. Mais dans ce temps-là, on se voyait juste comme des amis. Puis, à un moment donné, on s'est perdu de vue. J'avais pas encore eu ma phalloplastie dans ce temps-là. On s'est perdu de vue. Puis, quand on s'est retrouvés, ben, on s'est rendu compte qu'on était tombés en amour.
Puis
Donc, on a décidé de sortir ensemble à ce moment-là.
OK. Donc, elle t'a accompagnée tout au long des étapes de la phalloplastie, finalement.
Oui, c'est ça. Ben, en tant qu'amie, elle était là depuis le début. Ça a été, en fait, la première personne que, quand je l'ai annoncé là, à mon entourage, quand je l'ai annoncé à mes amis, ça a été la première de mes amis là, qui a tout de suite changé au pronom masculin. Tout de suite. Pour elle, dans sa tête, on dirait que ça a toujours été une simplicité puis une évidence. Dans le fond, elle voyait vraiment comme j'étais, même si j'avais même pas encore commencé les hormones quand je l'ai annoncé. Puis elle, tout de suite, là, elle a commencé à me parler au masculin, puis elle m'a toujours dit « je t'ai toujours considéré comme un gars ».
Wow.
Ça, puis j'imagine que ça doit aider à la transition.
D'avoir quelqu'un qui...
qui t'appelle au masculin aussi facilement dans les débuts.
Vraiment.
Ah, mon Dieu, oui. Là. Puis elle me défendait aussi. Là. J'ai déjà eu des petits problèmes là, avec d'autres amis ou de l'entourage ou des choses comme ça. Puis à chaque fois qu'elle était là, elle prenait ma défense là-dessus. Là.
Puis tes parents, à partir de quand est-ce qu'ils ont changé du féminin au masculin?
Ben, ma mère, ça a pris vraiment moins de temps que mon père. Mon père, je le reprenais souvent. Puis j'avoue que des fois, ça me fâchait parce que j'avais l'impression que... J'avais l'impression que c'était plus facile dans ma... Pour moi, c'était facile. T'sais. Pour moi, j'étais comme, je suis un gars, Colin. Mais t'sais, dans le fond, lui, il y avait une étape à faire de deuil puis de s'habituer. Puis t'sais, aujourd'hui, je le comprends. C'est juste que dans ce temps-là, j'étais impatient de me faire parler au masculin. Mais les deux, ils ont quand même fini par s'habituer là, quand même relativement vite. Là. Je connais beaucoup de gens que leurs parents ils ont pris beaucoup plus de temps là, ou qu'il y a même des parents qui refusent totalement... de parler à leur enfant avec les bons pronoms, là, puis qu'ils l'acceptent juste pas. Là, mais ça, c'est juste vraiment triste dans ce temps-là.
Puis dans le public, comment ça se passait? Est-ce que lorsque tu te faisais appeler par le mauvais pronom, tu avais tendance à corriger les gens?
Pour vrai, je pense. Pas au début. Puis à un moment donné, oui. Ouais. Au début, non, parce que j'avais pas encore beaucoup de changements physiques, puis je me sentais mal. Puis après ça, plus ça allait dans les changements physiques, plus je m'affirmais. Puis souvent, je le disais dès le départ. Là. Il y a eu un temps, en fait, que j'avais pas le choix. Là. J'étais comme, ben, je suis trans. Je le disais dès que je rencontrais les gens, parce que j'avais l'impression qu'au moins, ça brisait la glace. Puis c'est moi qui leur disais, puis ils allaient pas se faire des suppositions après dans mon dos. Là. Fait que je préférais faire ça à ce moment-là.
Et là, quand on arrive à l'étape où, bon, on passe sous le bistouri, ça se fait en fait en trois étapes et je sais qu'il y a bien des complications qui sont possibles. Il y a même des gens qui ne passent même pas au travers des trois étapes. Toi, tu l'as fait. J'ai une question très intime pour toi. En fait, est-ce que, en tant, quand tu avais ton vagin, finalement, est-ce que tu arrivais à avoir du plaisir par le clitoris ou de façon interne ou pas du tout?
Oui, par le clitoris.
Parfait. Le clitoris qui est quand même doté de 8000 terminaisons nerveuses versus le gland qui en a 5000. Hein? Le pénis a 5000 terminaisons nerveuses. Donc là, toi, t'es passé de un à l'autre, donc tu vas pouvoir nous comparer un peu les deux. La première étape, si je ne me trompe, c'est sur le bras. Donc tu dois faire raser ton bras, je pense, ou ils prennent un bout de peau sur ton bras. Est-ce que je me trompe?
Oui, dans le fond, c'est ça. C'est qu'ils prennent deux couches de peau sur ton bras pour le rouler et comme bâtir le pénis, là, dans le fond, avec ces lambeaux de chair-là. Puis ils prennent un artère aussi dans le même bras pour pouvoir avoir un artère là, qui fait circuler le sang dans le pénis. Puis après ça, ils connectent le pénis avec le clitoris, comme avec les nerfs du pénis puis les nerfs du clitoris. Ils mettent ça tout ensemble.
OK. Et là, ton clitoris, dans le fond, garde quand même toute sa... Tu sais, les bulbes là, de chaque côté... Ça, c'est ce qui va aller dans tes testicules, j'imagine, ou c'est quand même haut, ça, dans le... Parce que là, on crée les testicules éventuellement aussi, là.
Oui, exactement. Mais tout ça se fait dans la première étape de la phalloplastie. C'est que, dans le fond, la première étape, en plus de construire le pénis et de le connecter au clitoris, ils vont fermer le vagin. Je sais qu'il y a différentes sortes de phalloplastie. Là. Il y en a qui ferment le vagin, d'autres que non. Ça dépend du choix du patient. Mais généralement, là, c'est de moi, ceux que je connais, c'est vraiment, ils referment le vagin, puis ils vont prendre les lèvres, en fait, du vagin pour faire le scrotum.
OK.
Ouais. Mais à ce moment-là, on n'a pas encore de testicules, en fait. Ça vient dans la troisième étape.
OK. Et j'ai déjà lu que, bon, ça prenait une épilation laser, je pense, là, pour vraiment tout enlever le poil de toute cette région-là pour être sûr que lors de la transition, il n'y ait pas rien qui reste nulle part. Est-ce que je me trompe?
Oui, ben dans le fond, le laser, c'est vraiment sur le bras, là, pour pas, en fait, que quand ils vont bâtir l'urètre, parce qu'à la deuxième étape, ils connectent les deux urètes ensemble, donc l'ancienne urètre et l'urètre du pénis. Puis c'est pour pas qu'il y ait pas, c'est pour pas qu'il y ait de poils qui bloquent l'urètre. Moi, ça m'est arrivé. Parce que j'ai pas bien fait mon laser. J'étais vraiment, vraiment pressée d'avoir la phalloplastie. En fait, moi, je la voulais pas avant, la phalloplastie, mais quand j'ai décidé de l'avoir, parce qu'il y a des choses dans ma vie qui se sont passées, là, qui ont fait que j'ai réalisé que je voulais vraiment ça, puis ça devenait vraiment pressant, là. Je le réalisais de plus en plus, mais à un moment donné, c'est vraiment devenu une évidence. Puis à partir de ce moment-là, je voulais que tout aille vite, vite, vite. Fait que d'être obligé de faire du laser, puis d'attendre, puis d'attendre, puis c'est long, puis c'est cher, ça prend du temps. À un moment donné, ben il demandait d'envoyer une photo, l'endroit où on se fait opérer à Montréal, il voulait une photo de mon bras pour voir où il était rendu le poil, là. Puis moi, je me suis rasé avant, puis je leur ai dit « Ah, oh, ça fait longtemps qu'il est pas repoussé, là. » Mais dans le fond, c'était pas vrai. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Pour vrai, faites vraiment pas ça, ceux qui ont l'intention de faire l'opération, parce que plus tard, quand ils ont connecté mes deux urètes, à un moment donné, je chantais comme... j'avais de plus en plus de la misère à uriner, puis je chantais comme des bosses dans mon pénis. Puis là, je me disais, ben voyons donc, c'est quoi, mais des bosses dures, là, comme en palpant mon comme à l'extérieur, mon urètre, là. Puis là, je me demandais vraiment, fait que j'ai appelé le GRS, ça s'appelle, à Montréal, puis ils m'ont dit d'aller voir, là, d'urgence, puis j'avais de la misère à uriner. Puis finalement, on a découvert que j'avais comme des roches de poils dans l'urètre.
Ouch.
Parce que, ouais, quand ça fait, ouais, ça faisait mal aussi, là, quand dans mes boxers, des choses comme ça. Puis c'est vraiment, en fait, parce que le poil, en restant là, il finit par se mettre ensemble, ça forme une boule, puis je vous jure, ça devient dur comme une roche. C'est fou.
On sent vraiment, Dominique, qu'il y avait une urgence de vivre à ce moment-là dans ta vie. Ça se devait d'arriver probablement, mais au moment où tu décides d'emboîter le pas puis de faire la phalloplastie, comment tu décides de la longueur? Est-ce que tu peux décider ça?
Non.
Sinon, t'as aucun contrôle là-dessus. Hein?
Comment ça marche? C'est quoi les débuts des procédures? Qu'est-ce qu'on te dit? Comment ça fonctionne?
Dans le fond, moi, je savais pas à ce moment-là. Moi, j'ai pas osé vraiment poser des questions par rapport à la longueur, là. Ce qu'on m'avait dit, c'est que juste c'était standard, là, comme dans les standards.
Toi, tu voulais un phallus, point.
Ouais, c'est pas mal ça, mais en même temps, c'est sûr que je souhaitais qu'il soit quand même d'une bonne taille, là. Puis on m'avait juste dit, on essaie de le faire dans les standards, dans les normes, on va dire, là. Je sais qu'il y a comme un average, là, qui est plus standard.
Autour de 13 cm, je pense.
À peu près 5 pouces.
Ouais, je sais pas.
Ouais, exact.
Ouais, je suis pas ben bon là-dessus, mais.
Pas tout
après,
à fait un 6 pouces de Subway, là.
Sans cocombe.
Non, c'est ça. Mais après, j'ai quand même. J'ai quand même appris que, en fait, ça dépend aussi de comment ta peau guérit. Donc, si ta peau est vraiment élastique puis elle se rétracte, ben ça va faire en sorte que même s'ils prennent une certaine partie de ton bras, ben ça veut pas dire que tu vas avoir cette longueur-là. Ça va peut-être être plus petit aussi. Parce que si ça rétracte, ben en fait, c'est le pénis il va rapetisser, là, mais à un moment donné, ça arrête, là, une fois que c'est guéri complètement. Donc, tu sais, moi, je regarde mon bras, je me dis, OK, ils en ont pris une bonne partie, mais finalement, c'est pas vraiment cette grandeur-là.
Puis tout au long de la procédure, avant et après, est-ce que tu as un accompagnement psychologique?
Oui, avant de prendre les hormones, même les bloqueurs, oui, tantôt, on m'avait posé la question, je pense pas que j'y réponds, mais avant les bloqueurs, ça prend un suivi psychologique, ça prend même l'accord des parents. Avant les hormones, même chose, ça prend une lettre de psychologue, ou de sexologue, puis avant d'avoir la phalloplastie, il faut aller chercher une autre lettre de psychologue ou de sexologue.
Et même d'un médecin, si je ne me trompe. Hein?
C'est
quand même une procédure.
Avant les hormones, ça.
C'est ça, OK. Ouais. Donc, c'est quand même une procédure qui est assez longue, puis c'est remboursé, en fait, par le régime d'assurance maladie du Québec lorsque ça s'inscrit vraiment dans une démarche d'affirmation de genre, que t'es sûr, t'as été suivi par des psychologues, par un médecin. Tu sais, c'est pas de doute, là, c'est là que tu t'en vas. Puis il y en a qui. Ça avorte, là, carrément. Tu sais, il y a des gens qui finissent par dire, OK, non, finalement. J'oserais pas, là. Mais toi, tu étais vraiment, vraiment décidée.
Et... Oui, vraiment, vraiment.
Cette première étape-là, ça a pris combien de temps sur la table d'opération, disons? C'est sous anesthésie générale. Combien de temps?
Oui, 8 heures.
8 heures. OK.
Oui.
Wow.
Ouais.
Quand tu t'es réveillée,
ouais.
As-tu regretté?
De...
Sur le coup, est-ce que ça faisait mal? Est-ce que tu t'es demandé qu'est-ce que je viens de faire là ou tu étais vraiment, mais vraiment heureux de ta transition?
Pour vrai, au début, t'es tellement perdu parce que, pour vrai, là, à chaque fois que je me fais opérer, moi, j'ai eu quand même beaucoup d'opérations parce que entre ça, pour avoir la phalloplastie, il faut que t'aies aussi l'hystérectomie, là, où ils enlèvent tous tes organes reproducteurs. C'est tout ça, t'as pas le choix pour avoir la phalloplastie. Donc ça, ça fait une opération de plus. Puis à chaque fois, là, il me manque un méchant bout avant puis après l'opération. C'est comme si je faisais de l'amnésie, là. C'est vraiment spécial. Donc t'es comme dans les vapes, sous médicaments, antidouleurs. Fait que je me souviens pas de la douleur à ce moment-là. Je me souviens que j'avais hâte de voir, là, comme ça, ça te reste dans la tête quand tu te réveilles et tu veux voir, mais j'arrivais pas à rien voir, en fait, parce que t'as tellement de bandages puis t'es tellement dans les vapes que tu sais que tu vois rien. Mais après ça, tu passes 3 jours à l'hôpital, puis après, t'es transféré dans une maison de convalescence qui est faite, en fait, spécialement là, pour ça, qui est vraiment juste à côté de où on se fait opérer. Puis à cette place-là, en fait, une semaine là, toute seule, il y a d'autres gens dans la maison, d'autres patients, mais moi, j'étais le seul FTM, en fait, un homme né dans un corps de femme.
Okay.
J'étais le seul parce que c'est tellement une grosse opération qu'ils en font juste une par semaine de cette opération-là. Puis les autres, c'était des MTF, puis ils étaient tous en haut. Donc, ça faisait en sorte que je me sentais quand même seul, puis, tu sais, comme c'est quand même un gros changement, puis je chantais encore mon vagin, comme, mais il était plus là. Fait que c'était vraiment bizarre pour moi de me dire, OK, non, comme je l'ai maintenant, j'ai un pénis, mais comme je le sens pas encore, c'est vraiment spécial. Puis en même temps, ma blonde que j'ai maintenant, là, qui était avec moi dans ce temps-là, elle m'avait dit, est-ce que tu penses, ça, elle m'a dit ça, comme après l'opération, elle m'a dit, est-ce que tu penses que tu as fait ça pour le regard des autres? Puis là, genre, j'étais comme, ben non, c'est parce que je le voulais vraiment, mais j'avoue que ça m'a vraiment fait douter.
Ça t'a challengé.
Là. Ben oui, ça m'a challengé vraiment parce que j'étais comme Colin, j'aurais-tu fait ça si ça n'aurait pas été du regard des autres, pis ci, pis ça, pis tu sais, c'est sûr que j'avais juste ça à faire, penser tout seul dans ma chambre. Fait que c'est sûr là, que j'étais comme, oh shit, je viens-tu de faire de quoi de gros, pis finalement, pour vrai, genre, jamais je retournerai en arrière. Là. Comme vraiment, aujourd'hui, je suis super content, je me sens en harmonie avec moi-même, pis. Ça a été une longue, comme de longues étapes, là, de longues années là, avant d'en arriver là, parce que c'est quand même 3 opérations où j'ai eu des complications. Mais au bout de ça, aujourd'hui, là, je regrette vraiment pas. Puis je suis tellement content parce que je sens que c'est toujours ça que j'aurais dû avoir.
Mais oui, parce que là, on parle du début de la testostérone autour de 18 ans et l'opération seulement à 26 ans. Donc, il y a quand même un gros délai qui s'est écoulé là, entre les deux. Et je pense que si ça avait été pour le regard des autres, les psys l'auraient vu, là. J'imagine bien que ça a été analysé, ça aussi. Et peut-être que c'est toi, en fait, qui se sentais justement imposteur tant que cette transition-là n'était pas faite en entier, finalement.
Peut-être, ouais. Ben, je sais pas, en fait. C'est la question qu'elle m'a posée, ça m'a juste vraiment
challenging.
Mis en doute. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que j'ai toujours eu un sentiment d'imposteur avant de moi me dire, OK, comme OK, je suis un vrai gars, même si j'ai un parcours trans, en fait. Parce que avant, c'est comme si, en fait, j'avais l'impression que les gens, ils me verraient jamais comme un vrai gars. Puis, ça se peut qu'il y ait des gens qui me voient jamais comme un vrai gars à cause de ça, mais maintenant, je m'en fous. Avant, ça m'aurait vraiment atteint, comme vraiment beaucoup. Ça m'aurait détruit, là, que quelqu'un me dise ça. En fait, ça m'arrivait, puis ça me détruisait. Ma blonde, elle me ramassait souvent à ce niveau-là. Mais maintenant, je m'en fous. Comme je sais que je suis un gars. Moi, je le sais. C'est tout ce qui compte. Puis, il n'y a personne ici, autre que moi, qui sait qui je suis, en fait. Puis,
exact.
J'ai juste un parcours différent, c'est tout.
Voilà. Puis là, physiquement, ton clitoris, là, finalement, il te procure encore du plaisir. Il est situé, en fait, le phallus, finalement, lorsque tu souhaites avoir une érection, il y a tout un processus qui se fait, là, mais le plaisir vient d'où exactement? Et on va ensuite discuter là, de l'espèce de l'eau saline qui est inséré finalement tout au long et tout ça. En tout cas, bref, tu pourras nous expliquer ça là, plus en détail. Mais vraiment, moi, je me demande, le plaisir, tu le ressens d'où exactement?
C'est certain qu'au début, là, ça prend environ 1 an là, avant que les sensations y reviennent comme il faut. J'ai pu avoir un... Comme moi, je suis quelqu'un justement qui avait bien de la libido. Là. Fait qu'on s'entend-tu que... C'est 3 mois de convalescence, la première étape. Là. Fait que moi, j'avais vraiment le goût de voir si j'étais capable encore d'avoir des orgasmes après 3 mois. J'ai attendu quand même les 3 mois de convalescence là, avant, parce que je voulais pas me faire mal non plus, mais j'ai passé 5 heures une nuit à juste essayer d'avoir un orgasme. Puis au bout de 5 heures, j'ai réussi. Pour vrai, je me suis dit, je m'endors pas tant que je réussis pas. Parce que je voulais aussi savoir si tout avait bien connecté, puis si j'allais pouvoir avoir du plaisir sexuel après, parce que c'est quand même un risque à prendre. Il y en a que ça reconnecte pas. C'est rare, c'est vraiment rare, mais il y en a qu'ils n'arrivent plus à retrouver leur sensation. Fait que c'est sûr que j'avais peur. Fait que, en tout cas, mais j'étais bien, bien content quand j'ai su que j'étais encore capable.
Ben, puis là, tu t'y prenais en fait comme une masturbation normale, normale, conventionnelle, en fait, d'un pénis ou tu touchais là, plus directement des zones? Comment tu t'y prenais? J'ai envie de savoir si tu es à l'aise de nous raconter.
Ben non, c'est bien correct. Je sais pas si j'en ai déjà parlé de ça sur TikTok, là, peut-être, mais en tout cas, faut bien aborder le sujet à un moment donné.
Oui.
Mais dans le fond, au début, j'avais pas la pompe. Puis c'est la pompe qui permet d'avoir des érections, dans le fond.
Oui.
Fait que j'ai commencé à me toucher, mais avec le pénis mou, là, dans le fond. Là. Fait que je m'arrangeais juste pour que ça me fasse du bien, mais même s'il était mou. Puis c'est plus à la base, en fait, justement, où il y avait l'ancien clitoris. C'est là que j'avais des sensations le plus au début, parce que c'est normal, ça connecte à partir du clitoris, puis après, ça monte. Fait que ça a pris un an là, environ avant que je sente plus au bout du pénis.
Fait que les nerfs connectent et se développent finalement tout au long de ton phallus.
Exactement.
Puis avec la pompe, comment ça fonctionne tout ça? Parce que c'est tout un attirail, d'après ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que ça prend du temps avant que tu puisses avoir une érection qui se maintient? Et combien de temps elle se maintient?
Ben dans le fond, ça dépend des sortes de pompes. Là. Je sais qu'il y en a... je pense qu'il y a 2 ou 3 sortes de pompes qu'on peut avoir. Puis il y a des tiges aussi, ce qui est quand même différentes façons de faire.
Ouais.
Mais moi, dans le fond, c'est quoi que t'as dit?
Non, j'ai dit oui, j'ai approuvé. Parce que la tige, je sais qu'il y a des gens qui se font insérer une tige. Et là, ça donne comme un effet un peu semi-croquant, mais en tout temps. Il y a des gens qui préfèrent ça. Alors que la pompe, si je ne me trompe, il y a un petit truc qui est inséré là, comme dans tes testicules. Et c'est ce qui te permet d'appuyer là-dessus pour envoyer l'eau saline là, tout au long de ton phallus.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ben, dans le fond, c'est moi, la mienne, la façon qu'elle fonctionne, c'est ben, à ce moment, elle ne fonctionne plus. J'ai eu une fuite, il faut que je la fasse changer. Mais ça, c'est des c'est des choses qui peuvent arriver, mais ça n'arrive pas tout le temps. C'est juste que moi, j'ai pas eu de chance avec la mienne. Fait que ça, c'est une autre opération de plus là, à faire, mais c'est pas tant... C'est
puis
pas
la fuite, ça veut opération. Dire que l'eau saline s'est mise à couler dans ton scrotum, c'est ça?
Ben, elle a juste fui dans mon corps. Là. Dans le fond, elle s'est répandue dans mon corps, mais c'est de l'eau saline. C'est pas dangereux.
C'est
au début, je capotais, là, mais finalement, c'est correct.
C'est comme les implants mammaires. Les implants mammaires, une amie a déjà été consultée et le médecin lui a dit « Ah, un moment donné, tu vas te lever avec un flat, puis tu le feras changer.
» C'est ça, c'est ça.
Carrément. Bang!
C'est
OK.
Ça.
Puis est-ce que ça prenait beaucoup de coups de pompe avant d'avoir une érection? Comment ça fonctionne?
Ben dans le fond, c'est ça. La mienne, la façon qu'elle fonctionne, c'est que fallait que j'appuie sur ma testicule parce qu'en fait, ils te mettent les testicules avec la pompe. Il y a une testicule qui est en silicone qui sert à rien à part être une testicule. Puis l'autre testicule, c'est relié à la pompe en fait. Ben c'est la pompe qui est reliée à un réservoir d'eau saline qui se situe dans ta laine. Puis ce réservoir-là, il est relié à... moi, j'ai une tige dans mon pénis, une grosse tige. Mais ils mettent plus cette pompe-là maintenant. Là, elle a été enlevée parce qu'il y a eu trop de problèmes avec celle-là.
Trop de fuite.
Trop d'infections. Mais bref, ça a
parce
été
qu'il y a des
chose,
risques, là, liés à tout ça, là, comme toute opération, finalement.
Ouais. Ben, ça a été une qui a été spécialement conçue pour les FTM, donc les gens qui ont changé de sexe.
Oui.
C'était juste une grosse tige, puis le bout, il était beaucoup plus rond. Donc, c'était beaucoup moins douloureux pour les gens lors des relations sexuelles. Tandis que les autres pompes qu'ils mettent en ce moment, qui ont toujours mis, qui fait moins d'infections, ben eux sont conçus à la base pour les hommes cis qui ont des problèmes érectiles.
Okay.
Donc, elle n'est pas vraiment conçue pour une phalloplastie. Fait que tant qu'à moi, plus tard, il va avoir des meilleures technologies que ça, là, des meilleures sortes de pompes. Ça devrait venir bientôt d'autres spécialement faites pour les FTM, mais pour l'instant, c'est ceux-là qu'on a, c'est ceux-là que je vais avoir, celle-là que je vais avoir dans le fond là, quand je vais me faire opérer prochainement. Là. Mais dans le fond, c'est ça. C'est que tu gonfles, ça prend mettons 2-3 coups. Il faut que tu appuies avec ton pouce puis ton index, je pense. Il faut que tu appuies dans le fond sur ta testicule. Puis là, tranquillement, ben ton pénis il gonfle. Ça prend 3-4 coups là, pour que ça. ça gonfle comme il faut, puis il est droit comme à 90 degrés, mais il est vraiment rigide, là, comme vraiment rigide à 90 degrés. Ça peut varier un peu, là, le degré, mais moi, c'était ça, puis ça dure tout le temps, en fait, là, comme je pourrais avoir un orgasme, puis après ça, comme faut moins je le dégonfle moi-même.
Tu rappuies, comment tu fais pour dégonfler?
Ben, il y a un petit bouton sur le côté, là. Il y a comme la testicule, puis juste au-dessus, il y a un petit bouton, puis il faut que tu pèses sur le bouton pour que la...
Oui, ça retourne.
Oui, exactement.
Dans puis son là, petit...
Exactement.
OK. Ça. Puis au niveau du plaisir, est-ce que tu arrives à obtenir autant de plaisir qu'avant? J'imagine que c'est diminué un peu ou plus, peut-être?
Ben honnêtement, c'est pas mal la même chose.
Ah ouais?
Parce que je me souviens. Ouais, c'est pas mal similaire. Ça a pris du temps, là, mais je trouve que c'est pas mal similaire. Peut-être parce que je me souviens plus exactement à quoi ça ressemblait avant, parce que ça fait quand même longtemps, mais
de t'as des orgasmes. Souviens...
Oui, ben oui. Une chance, Colin.
Non, mais parce que c'est ça, il y a toujours un risque, là, évidemment. Fait que là, je me suis dit peut-être en taponnant les nerfs, tu sais, c'est moins intense ou c'est ça. Donc finalement, wow, je suis vraiment impressionnée par ça. Puis,
ben moi, j'ai de la chance. Parce que c'est pas tout le monde, justement. Là,
non.
Puis, mais plus ça va, plus ça connecte quand même bien. Là, ils sont rendus habitués d'en faire. Mais c'est ça. Je te dirais qu'au niveau de pénétration, j'ai pas super exploré souvent, là, justement, parce que j'ai pas eu ma pompe longtemps avant qu'elle flûte.
OK.
Mais je trouvais qu'au début, ça me faisait mal parce que je venais de l'avoir. Donc, c'était comme pas trop évident de ressentir du plaisir sexuel là, quand... je faisais avec pénétration. Là. C'était plus douloureux que d'autres choses, mais vers la fin, avant qu'elle fuite, je trouvais que plus ça allait, plus je le sentais, là, plus je sentais comme l'intérieur du vagin. Puis, comme je voyais que je commençais vraiment à avoir plus de sensations, puis plus de...
Tout au long de ton membre, finalement.
Oui, exactement.
Wow.
C'est ça, mais vers la fin, puis finalement, okay. ça finit pour l'instant. Mais
ça retourne... Service après-vente, si on veut dire de façon cocasse. Et est-ce que si ta conjointe, par exemple, te fait du sexe oral, une fellation, est-ce que ça peut t'apporter du plaisir? J'imagine que oui.
Ouais, mais j'aime pas ça.
Pas tant. Ah, OK.
Ouais, juste parce que j'aime pas ça, non, c'est ça.
Comme, OK. C'est vous arrivez à vous donner quand même du plaisir de d'autres façons que par la pénétration?
Oui, ben c'est sûr, là. Comme
oui.
Tu sais, j'ai tout le temps été habitué. Tu sais, ma blonde
avec
est vraiment patiente. Ouais, c'est ça. Puis ma blonde est vraiment patiente. Puis en même temps, on a tellement passé à travers toutes les étapes ensemble que, pour vrai, à un moment donné, je sais pas si ça veut je le dis, mais en tout cas, un moment donné, on a fait l'amour. Puis j'avais encore comme tous mes bandages d'opération, là, comme à différentes places, là. C'était pas à cette place-là, là. Mais tu sais, juste pour dire, comme à même si j'ai l'air d'un astronaute avec tout mon kit d'opération, là, tu sais. Fait
c'est tellement beau ton histoire. Connecté. C'est vraiment quelqu'un qui a vu ton évolution, puis qui t'a accompagné, qui t'a soutenu. C'est beau, là.
Ouais, ben, merci. Je suis content aussi de l'avoir
vraiment.
Dans ma vie.
Vraiment, c'est super inspirant. Puis, donc là, dans le fond, ça démontre juste parce que de toute façon, tu sais, comme ta conjointe, quand même qu'il n'y a pas de pénétration, c'est 20% des femmes à peu près qui ont un réel orgasme de façon par la voie vaginale, tu sais. Mm. Autrement, c'est par voie externe, par le clitoris externe. Donc, tu sais, vous deux en ce moment, là, ben, vous êtes en mesure de vous donner en masse de plaisir. Là.
Exactement. Puis, tu sais, je veux pas, c'est ça, j'étais habitué avant, puis on était habitué avant que j'aille la pompe. Fait que... Pour elle, ça change pas grand-chose en ce moment que j'ai une fuite dedans parce qu'elle dit bon, on retourne à nos habitudes d'avant, puis c'est correct dans le fond. Là, on se trouve des techniques, on
ben
découvre
oui.
des choses. T'sais, on essaie. Dans le fond, une transition, là, c'est tout le temps de redécouvrir son corps. Pour moi, c'est une adaptation, puis pour la personne avec qui je suis aussi, en fait, c'est de redécouvrir à chaque fois, dépendamment de combien de temps ça fait qu'elle suit dans ta transition. Mais tu sais, elle est vraiment bonne pour ça, pour essayer des nouvelles choses, pour essayer. Pour prendre son temps. Puis là, je dis, ben, on a une bonne communication aussi. Fait que je dis, ah, ça, j'aime pas ça, j'aime moins ça. Puis je pense que c'est vraiment important. Là.
Oui. Dominique, il nous reste 2 minutes et je sais que tu avais envie de me parler de ton projet, un super beau projet qui se passe dans un chalet. Donc, je sais pas si tu veux rapidement nous expliquer ce qu'il y en est. En fait, tu recherches en ce moment un chalet ou organiser un événement.
Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, moi, quand je me sentais vraiment seul, là, à une période de ma vie, dans ma transition, j'ai décidé d'organiser des chalets d'hommes trans, en fait, des gens qui vivent la transition de la même de la même manière que moi, en fait, d'un homme né dans un corps de femme.
Oui.
J'ai décidé d'organiser des chalets pour eux spécialement, pour qu'on se retrouve entre gars, qu'on parle justement de nos craintes, qu'on se partage, en fait, nos expériences, des choses comme ça.
Parce que tu as vécu la perte de quelqu'un, si je ne me trompe, hein? Quelqu'un de proche de toi qui...
Oui, un de mes amis, tu sais, par rapport à ça, il se sentait quand même vraiment seul. Puis moi aussi, d'ailleurs, puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi de gens là, qui vivent de la solitude quand ils font des transitions, puis ils ne savent pas nécessairement à qui d'en parler. Fait que j'ai décidé d'organiser ça avec plein de gars à travers le Québec. C'est tous des gars souvent qu'on ne se connaît même pas. On se rencontre à un endroit dans un chalet que je décide de louer. Puis on apprend à se connaître à travers la fin de semaine. Mais présentement, je trouve plus de chalet. Depuis la COVID, il n'y en a plus, c'est trop cher. Puis souvent, quand tu entends une transition, il y a quand même beaucoup de choses à payer. Même s'il y a une partie qui est payée, il y a quand même les bandages, la route, il y a beaucoup de choses à payer. Donc, ils n'ont pas nécessairement les sous pour ça. Donc, j'essayais de trouver tout le temps des chalets quand même le moins cher possible.
Abordable.
Abordable pour leur offrir ça. Puis maintenant, depuis la COVID, là, j'ai pu en faire deux avant ça. Puis maintenant, je cherche, puis j'en trouve pas. Donc, s'il y a des bons Samaritains là, qui seraient intéressés puis qui ont des chalets abordables, faites-moi signe sur mon TikTok.
Dominique Thibault sur TikTok. Dominique avec un K.
Ouais, c'est, ben en fait, c'est mon nom exact sur TikTok, c'est dom.tib.
Dom.tib sur TikTok.
Ouais.
Parfait.
Ouais,
c'est T-H-I-B. Excellent.
Il y a pas mal de monde qui nous écoute à choix, Dom, fait que je te souhaite que ça fonctionne pour toi. Puis avant qu'on se laisse, à la lumière de ce que tu nous as raconté ce soir, qui est une histoire vraiment intéressante et fascinante, qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes femmes qui, en ce moment, se sentiraient dans le corps d'un homme? Quel message tu aurais à leur donner si eux pensent faire la transition, elles aussi?
Lui aussi.
Oui, mais au moment où elles sont des femmes...
Mais dans leur tête, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que j'aurais à dire... Ben, en fait, à toutes les gens trans, là, ce que j'aimerais dire, c'est juste d'être patient, de s'armer de patience. Ça peut être long, ça peut être difficile de s'entourer de bonnes personnes qui vous comprennent, qui vont vous supporter là-dedans, même si c'est pas votre famille. Créez-vous votre propre famille avec des amis que vous savez que vous pouvez avoir confiance. Puis, laissez jamais personne vous dire qui vous êtes. Vraiment, là, c'est des choses que j'aurais aimé ça savoir avant, plus tôt dans ma transition.
J'aimerais faire juste un petit rappel des lignes d'aide si jamais vous sentez le besoin de... Il y a toujours, bon, évidemment, le 811 que vous pouvez contacter directement. Autrement, il y a la ligne québécoise de prévention du suicide qui est le 1-866-APPEL 277-3553. Jeunesse, j'écoute, qui est le 1-800-668-6868. Est-elle jeune? Ça en ferait le 1-800-263-2266. Donc, bon, là, je les ai dit vite, là, pour faire écouter en rediffusion si vous voulez les réentendre. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Si vous sentez le besoin de parler, puis j'ai l'impression que les tabous sont en train de tomber autour de tout ça. Je trouve ça le fun que la société en soit rendue là aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais anyway, peu importe ce qu'on va faire dans la vie, il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont chialer. Donc, l'important, c'est vous. Vraiment.
C'est bien dit, ça.
Merci beaucoup, Dominique Thibault, sur les réseaux sociaux. Dom.tib sur TikTok. Un immense merci d'avoir partagé avec nous ton inspirante histoire. On va assurément refaire un live sur TikTok ensemble, éventuellement.
Oui, j'aimerais ça.
Vraiment, c'est super bon. Tu donnes plein de conseils via ton TikTok. Tu as des capsules super intéressantes pour les gens qui se posent plein de questions par rapport à tout ça. Donc, merci beaucoup. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute encore une fois ce soir de La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X. Et merci, mon cher collègue Max, sans qui ce show ne pourrait avoir lieu. merci, Max. Ça a été un plaisir.
Merci à toi.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio-y.